Dialogue entre Congolais avec Jean-Claude Toumba Kamanga.
Bonsoir. Fin ce mardi de la visite en RDC de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Qu'est-ce qui ressort de sa rencontre avec le président Joseph Kabila ce mardi même à Goma? Quelles peuvent en être les retombées? Quelles peuvent être donc les retombées de la visite de la secrétaire d'État américaine dans les relations entre la RDC et les États-Unis? Nous en parlons avec pour invité ce soir Christian Kambinga. Il est chargé de l'organisation au sein de l'Alliance de la majorité présidentielle. Il est également ancien vice-ministre de la coopération internationale. Monsieur Christian, bonsoir.
Bonsoir.
Nous recevons aussi Clément Tankou, député national de l'opposition, deuxième vice-président du groupe parlementaire des chrétiens démocrates et président du parti politique Mouvement pour le Renouveau. Clément Tankou, bonsoir.
Bonsoir.
Nous recevrons tout à l'heure, parce qu'il n'est pas encore là, mais il est déjà dans nos murs, Samuel Brock. Il est chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis en RDC. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Fin ce mardi de la visite en RDC de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, une visite qui s'est achevée par la rencontre avec le président Joseph Kabila, la visite d'Hillary Clinton aux déplacés du camp Mugunga et des entretiens avec les organisations féminines, locales et internationales engagées dans la lutte contre les violences sexuelles. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette rencontre, notamment avec le président Joseph Kabila? Gabriel Wamenya, un de nos permanents de Radio Kapidonk à Goma, a couvert cet événement. Il nous en fait le point dans cet entretien avec Alain Rong.
Bonsoir Gabriel Wamenya.
Bonsoir Alain Rung.
Qu'est-ce qui a été au menu de la rencontre entre le président Joseph Kabila et la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton?
Les problèmes sécuritaires dans l'est du pays ont été au centre des entretiens entre le président Joseph Kabila et Madame Hillary Clinton. En dépit des avancées enregistrées sur les plans sécuritaires, Hillary Clinton a insisté sur la responsabilisation du gouvernement dans la lutte contre l'impunité et les violences faites aux femmes. La secrétaire d'État américaine a annoncé qu'une nouvelle ère des partenariats entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique vient de s'ouvrir. Cependant, d'après Hillary Clinton, les défis à relever restent énormes. Elle a cité les cas du manque d'investissement et de développement, la corruption, la bonne gouvernance et les violences sexuelles. Elle a par la même occasion réitéré la volonté du gouvernement américain à aider la République démocratique du Congo dans la formation d'une armée républicaine. Lors de leurs entretiens, elle a affirmé que le président Joseph Kabila a accepté l'envoi au Congo d'une équipe d'experts américains en finance, d'experts juristes. Leur mission, faire des suggestions précises en vue d'aider les gouvernements et le peuple congolais à relever les défis et notamment accomplir des réalisations par l'exploitation de l'énorme potentiel des richesses de la République démocratique du Congo.
Gabriel, la secrétaire d'État s'est aussi déplacée à Mugunga ainsi qu'à l'hôpital Il Africa. Qu'a-t-elle fait sur place?
À Mugunga, Madame Hillary Clinton a tout simplement écouter les doléances des déplacés de ces camps. Les déplacés ont souhaité que le gouvernement américain puisse aider les gouvernements congolais dans la stabilisation de l'Est, facteur primordial pour leur retour dans leur milieu. À l'hôpital Il Africa, une structure médicale qui prend en charge des victimes de viols, les responsables des organisations féminines ont recommandé fermement à la secrétaire d'État américaine de faire pression sur les acteurs politiques dans la région des Grands Lacs pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Ces mêmes organisations ont dénoncé l'impunité dont bénéficient certains auteurs de crimes graves comme les viols et qui sont parfois promis au sein des institutions étatiques.
Merci Gabriel.
Voilà, il faut dire que les mêmes organisations féminines locales recommandent aussi aux États-Unis de faire pression sur les gouvernements de la sous-région pour qu'ils revoient la stratégie actuelle de lutte contre les rebelles FDLR en mettant un accent particulier sur la protection des civils conformément à la résolution 1856 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, il faut signaler que M. Samuel Brock vient de faire son entrée dans ce studio. M. Samuel, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous venez tous de suivre cet élément que viennent de nous proposer nos confrères, donc Gabriel Wamenya avec Alain Hirung. Peut-être premier commentaire avec vous, Clément Kankou.
Oui, nous saluons
cette nouvelle dynamique de la politique américaine en Afrique, notamment dans les Grands Lacs. Et nous saluons les recommandations faites par Madame la Secrétaire d'État. Et nous espérons que cette fois-ci, nous partirons sur de nouvelles bases dépourvues de toute suspicion. Comme vous savez que pendant longtemps, nous avons eu des relations un peu difficiles avec les États-Unis d'Amérique, dans la mesure où les Congolais ont été frustrés pendant longtemps sur les réactions assez mitigées que les États-Unis ont réservées quant au drame humanitaire que nous avons connu depuis des années, qui a coûté, comme vous le savez, près de 6 millions de morts dans notre pays. Et nous estimons que cette fois-ci, c'est la bonne. Nous partirons sur de nouvelles bases et nous saluons cette nouvelle dynamique venant de l'administration Obama.
Qu'est-ce que vous entendez par réaction mitigée?
Mais écoutez, par exemple, je vais donner des exemples très simples. Vous avez vu, chaque fois qu'il y a des cas, par exemple, de violation d'embargo, par exemple, avec le Cuba, les Américains n'ont pas hésité à sanctionner des pays ou des firmes qui ont travaillé avec eux. Alors que nous avons vu au Congo que les relations, ça a été prouvé à travers certains rapports des Nations Unies, l'implication du gouvernement rwandais dans les drames congolais. Mais on achète de façon illicite, on exploite illicitement les minerais congolais, on les vend au vu et aussi de tout le monde. Les missiles nationales qui les achètent, ceux qui utilisent, par exemple, ceux qui, je ne vais pas faire la publicité, de ceux qui fabriquent les appareils cellulaires, par exemple. C'est des notoriétés publiques que les ressources, nos ressources sont utilisées pour fabriquer ce genre de matériel. Mais on le fait. On le fait au vu aussi de tout le monde. Nous n'avons pas vu une sanction sévère à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda jusque-là. Mais nous pensons que cette fois-ci, les États-Unis vont frapper du poing sur la table pour que ceux qui le font, qu'il y ait des sanctions claires et que plus jamais, qu'il y ait, par exemple, une traçabilité, comme le gouvernement congolais l'a souhaité, de toutes ces minerais qui viendraient du Congo, afin que, bon, qu'on ne puisse plus créer de petits mouvements armés qui faciliteraient ce genre d'exploitation.
Christian Cambinier.
Je considère cette visite de Mme Clinton comme étant une avancée significative dans notre diplomatie, et que ce que je sais, que les États-Unis ont toujours été les grands amis du Congo depuis longtemps, et que le Congo, pendant la guerre froide, a joué un rôle important dans dans l'Afrique centrale. C'est pratiquement les pivots de la politique extérieure des États-Unis. Bon, il se fait que depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis ont tourné les dos au Congo, faute d'intérêt stratégique. Ce qui fait qu'on a assisté à tout ce que nous avons connu, toutes les rébellions et tout, que les États-Unis, comme l'a dit l'honorable Kankou, finalement, se désintéressaient totalement de ce qui s'est passé au Congo.
Vous êtes d'accord avec Clément Kankou?
Oui. La réaction mitigée. Parce que si les États-Unis l'avaient voulu, s'étaient impliqués, on n'aurait pas assisté à tout ce qui se passe aujourd'hui à l'Est.
Voilà.
J'ai suivi Mme Clinton, c'est vrai, elle déplore les violences faites aux femmes et tout, mais ce pays n'a jamais été comme ça. C'est parce qu'il y a la guerre que nous assistons à tout ça. Les militaires qui violent, les militaires qui font ce qu'ils font, c'est parce que tout simplement, nous sommes dans une situation de guerre. Donc il faut mettre fin à la guerre pour qu'il n'y ait pas tous ces problèmes de violence.
Et comment vous avez trouvé justement la rencontre, pour revenir un peu à la question principale, comment vous avez trouvé l'issue de l'échange que Hillary Clinton a eu avec le président Kabila?
Bon, je crois que c'est important, les propositions qui sont faites, notamment pour la formation de l'armée. Bon, faut voir dans quelle spécialité on va former ces militaires. Et dans la formation des militaires, je souhaiterais que ça se passe un peu comme autrefois, avec les Français qui formaient les parachutistes congolais de CETA, qui, en plus de soldes, avaient une prime qui était dans le cadre de la coopération, qu'ils accordaient à ces militaires de CETA. Je crois que si on arrive à gérer ce genre de problèmes, pour avoir une brigade bien formée, capable de défendre la frontière de notre pays.
Et qui recevrait une prime de la part des États-Unis, par exemple.
Non, c'est
ce que vous comprenez.
Oui, ça peut être dans le cadre de la coopération,
okay.
Tout ce qu'ils peuvent dépenser, puisque nous avons une expérience là-dessus, avec le
Français. Oui,
on l'a fait dans le cadre de formation des parachutistes qui étaient au camp CETA. Mmh. Les Français intervenaient pour que les gens qu'ils ont formés soient réellement des militaires qui sont exemptés de toutes tentatives.
Voilà, c'est un rapport avec l'armée. Mais on va laisser d'abord M. Samuel Bork aussi réagir par rapport à la rencontre de ce mardi, et puis aussi ce que vous venez d'entendre de la part de Clément Kankou et Christian Kambinga. Je vais juste vous demander peut-être de parler devant votre micro. Voilà.
Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. C'est la première fois que cette opportunité, je comprends bien aussi, il y aura des auditeurs qui vont appeler pour poser des questions. Deuxièmement, j'ai suivi avec intérêt les commentaires de mes collègues, surtout les commentaires concernant le manque des États-Unis ou l'inaction des États-Unis, si vous voulez, d'intervenir dans le conflit dans l'Est, surtout avec le Rwanda. Et je me pose la question, bon, d'abord, il n'y a pas d'histoire, enfin, pour commencer, il n'y a pas d'histoire d'intervention des États-Unis en Afrique. Cela n'existe pas, que je sache, les États-Unis n'ont jamais intervenu militairement en Afrique. Deuxièmement, enfin, le principe de la non-intervention, je pense que quand même, c'est un principe sacré. Et je suis un peu surpris que mes collègues ici ce soir aient évoqué la possibilité d'une intervention militaire, quand en réalité, bon, vous avez dit, bon,
ils ne sont pas d'accord,
mais vous avez dit que les États-Unis voulaient, ils pouvaient facilement intervenir pour empêcher le conflit avec le Rwanda.
Ils ont dit que les États-Unis n'ont pas beaucoup agi, ils ne sont pas beaucoup intervenus.
En fait, quand nous parlons d'agir, c'est parce qu'ils peuvent envoyer les militaires ici.
Dans le micro,
une pression politique et diplomatique sur le pays qui soutenait le rebelle congolais.
Voilà, merci pour la précision. Merci pour la précision, on va laisser la
parole. Très bien. Mais enfin, je pense que le plus important de cette visite, c'est le fait que pour moi, et je l'ai dit publiquement aussi, cela signale, à mon avis, symbolise aussi une nouvelle étape dans les relations, enfin, une nouvelle étape, après, bien sûr, les événements ici, après le conflit ici, etc., mais une nouvelle étape dans les relations diplomatiques et aussi dans beaucoup de domaines d'assistance entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Nous avons évidemment, pendant la guerre ici, nous avons suspendu, beaucoup de programmes de coopération parce que c'était pas fait, c'était même pas possible d'être présent ici à cause de la guerre, à cause des problèmes internes du Congo. Mais tout cela maintenant est passé. Il y a un gouvernement au Congo qui est démocratiquement élu. Nous avons augmenté de façon dramatique notre présence à l'ambassade en termes, par exemple, tout simplement de fonctionnaires américains à l'ambassade. Il y a 4-5 ans, il y avait une vingtaine d'Américains ici. Maintenant, nous approchons de un peu près 100 fonctionnaires américains à l'ambassade. Je pense l'an prochain, oui, nous allons atteindre le chiffre de 100 employés américains ici. Donc, il y a une expansion dans tous les domaines de la coopération américaine maintenant, sans compter évidemment notre appui, notre soutien financier à la MONUC, qui est considérable. Nous sommes le premier pays du monde pour soutenir financièrement la MONUC. Un tiers des coûts de la MONUC sont payés par les États-Unis. Donc, à part ça, il y a plus de 250 millions de dollars dans des programmes d'assistance bilatérale avec la République démocratique du Congo. Je m'arrête ou...
Non, vous avez la parole. Le temps, on regarde au
fond. D'accord, non, je ne veux pas non plus dominer la conversation.
Non, vous êtes dans le bon.
D'accord. Donc, le plus important, et Mme Clinton aussi l'a dit, c'est une nouvelle phase maintenant de entre les deux pays.
Et c'est une nouvelle phase, puisque vous en parlez. Revenons maintenant à cette rencontre justement de ce mardi. Est-ce que ça s'est bien déroulé selon vous?
Effectivement, je pense que c'est très très bien déroulé. Hein. Venir ici, enfin c'est la première fois qu'il y a une visite d'un secrétaire d'État, et que je sache, c'est la première fois qu'un secrétaire d'État américain se déplace de la ville de Kinshasa. Et nous avons fait des études là-dessus, nous avons vu que c'est la quatrième fois qu'un secrétaire d'État vient ici, à Kinshasa, M. Henry Kissinger, après M. James Baker, Mme Madeleine Albright et Hillary Clinton. Et c'est la première fois qu'il y a une sortie de la ville de Kinshasa. Donc déjà, cela signifie qu'il y a des problèmes logistiques de tout ordre, n'est-ce pas? Mais tout s'est très bien déroulé. Je pense que les activités qu'elle a choisies, le forum avec les étudiants universitaires, tout à fait, c'était un grand succès. Et là aussi, hier soir, a été reçu, d'abord, entretien entre le Premier ministre, Mme Clinton,
et le dîner,
des galas, à Grand Hôtel. Ce matin, la visite à Goma, l'entretien avec le président, le chef de l'État, après une visite à un camp de
personnes déplacées,
etc. Et finalement, aussi une petite visite avec certains éléments, certains effectifs de la MONUC, et après finalement, la visite de l'hôpital Hill Africa.
Okay.
Mais je pense que les résultats, nous verrons les résultats. Je pense que le programme a été excellent.
Voilà. On va y revenir. Peut-être un petit détail, à moins que ce soit un secret. Est-ce que Mme Hillary Clinton est encore à Kinshasa?
Non, elle est partie.
Voilà, elle est partie. Je suppose
d'après mes informations, j'étais pas non plus assez,
on peut quand même vous faire confiance. Vous êtes le chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis à RDC. Clément Cancou, un petit mot par rapport à ça vous rassure un peu ce que a dit le diplomate américain dans ce studio, il s'agit bien de sa mémoire.
Écoutez, je pense que quand un diplomate dit quelque chose, ça ne peut que le rassurer dans la mesure où il représente son pays. Mais nous voulons juste insister sur le déplacement dont on a parlé.
Oui.
C'est vrai que vous savez quand même qu'aujourd'hui, l'Est est devenu le ventre mou du Congo. C'est là où on a eu, on a tous les problèmes, tous les maux du monde, là où on a eu des grandes pertes en vies humaines.
Oui.
Et là où nous avons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, toutes les formes d'exploitation illicite des minerais.
Oui.
Et c'est quand même bien que Madame la secrétaire d'État aille voir les conséquences de toutes ces crimes.
Oui.
Qu'elle aille voir ces femmes qu'on a violées, lui montrer des éléments sur Internet. Elle n'aura peut-être pas la même sensibilité.
Oui.
C'est pourquoi les Congolais ont toujours eu du mal à comprendre cette espèce de distance du drame congolais. Je ne veux pas faire une hiérarchisation d'événements, mais par exemple par rapport au génocide rwandais. Donc là, je crois qu'on a une vraie perception des choses. Je crois qu'elle a vu des enfants qui ont été violés, des hommes violés, elle a vu des familles où on a éventré des bébés.
Oui, là, je dis que vous avez adressé une lettre ouverte à Mme Hillary Clinton, j'espère qu'elle l'a reçue.
J'espère qu'elle a reçu, parce que sinon on l'aurait fait pour rien, mais c'est fait à titre indicatif tout simplement. Mais nous disons donc qu'elle est à côté des questions économiques.
Oui.
Il est bon de ne pas oublier que la présence des SDLR dans cette partie de notre pays sera toujours la cause de la crise. Si nous ne réglons pas le fond du problème, elle reviendra dans 10 ans pour nous demander de lutter contre les violences faites aux femmes ou faites aux enfants, mais nous devons régler les problèmes. C'est bien qu'elle soit partie là-bas, qu'elle ait touché, qu'elle ait palpé du doigt, en répartant certainement aux États-Unis, on aura une meilleure perception.
Voilà, on a suivi l'élément de notre confrère, Gabriel Oménia, qui a couvert cette visite de Mme Hillary à Goma, et c'est tout. L'échange avec le président Kabila, la question sécuritaire était bien au centre de leur entretien. Je vais peut-être vous redonner la parole, Christian Tamina, mais le temps de prendre le premier lot de réactions des auditeurs. Il y a John de Kindu Omanyoma. Il y a des réactions d'abord contre, pas favorables à cette visite, et puis favorables. John de Kindu Omanyoma, lui, dit en quoi la visite d'Hillary Clinton est-elle bénéfique aux Congolais pendant que les Américains sont soupçonnés de téléguider les différentes rébellions à l'est de la RDC. Ça, c'est lui qui pose la question. François Ndikouye de Kinshasa se demandent ce que les Congolais peuvent gagner des relations entre la RDC et les USA. Il pense que l'intervention de ce pays aux affaires congolaises se justifie, selon lui, par son souci de mieux contrôler la RDC sans que les Congolais puissent y tirer quelque chose de profitable. Justin Lumuka Vugu de Beni au Nord Kivu salue la visite de la diplomate Hillary Clinton. Selon lui, en faisant allusion aux violences sexuelles, elle n'a pas beaucoup parlé du recrutement des enfants dans les groupes et forces armées dans la région. Maintenant, réaction favorable. Concernant la visite de Hillary Clinton au Congo, Douglas de Londres, en Grande-Bretagne, pense que nous devons arrêter de rêver en pensant que les États-Unis et l'Union européenne vont venir changer le cours des choses en Afrique. Cette tâche nous incombe à nous. Nous devons d'abord mettre fin aux tueries inutiles et reconstruire notre futur. Nzala Robert de Bounia, province orientale. Je pense que la visite d'Hillary Clinton ne suffit pas pour mettre fin à la crise en RDC, mais il faut que nos autorités travaillent sans regarder les pays riches du monde, car notre pays est parmi les plus riches en minerais. Félicité Mapendo de Bukavu pense qu'il ne faut pas, il faut rien attendre de cette visite de la patronne de la diplomatie américaine tant que la gouvernance n'est pas bonne. Selon lui, ce n'est pas Hillary qui va apprendre le nationalisme aux Congolais. Richard de Kisangani à Province orientale estime que cette visite ne va produire aucun résultat palpable car la solution du Congo viendra des Congolais eux-mêmes. On s'arrête d'abord là. On va peut-être poursuivre après. Peut-être un mot, Christian, et puis vous allez tous réagir en quelques secondes, hein, comme ça on va passer à la seconde partie de cette émission.
Oui, je crois que quand vous suivez toutes les réactions, il y a une constance dans la réaction des Congolais, c'est qu'ils sont inquiets de la situation de l'Est. Et aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que Mme Clinton a
raison. Certains sont inquiets, hein, c'est pas tout ça.
De toute façon, l'autre l'a dit, mais en terme est beaucoup plus voilé. C'est cette inquiétude de la sécurité à l'Est. Madame Clinton l'a dit, il n'y a pas d'investissement, c'est pas cette ma raison. L'argent n'aime pas les bruits, tant qu'il y a la guerre à l'Est. Donc, généralement, les Blancs estiment que l'Est, c'est le Bukavu, c'est le Bandundu, c'est le Bas-Congo, alors qu'il n'y a pas de guerre ici, ils ne viennent pas non plus. C'est le simple fait qu'il y a la guerre à l'Est. Alors, je crois qu'il faut aller droit au but, toucher le problème fondamental. Les États-Unis ont une expérience de lutte. De ce genre de lutte. Ils l'ont fait en Irak, ils sont en train de le faire en Afghanistan, ils savent très bien que c'est un travail fastidieux. Si déjà eux qui sont très bien équipés, des armées bien formées, ils ont des difficultés à mettre fin à ce genre de guérillas, il va de soi que dans un pays comme le nôtre qui est en train de chercher à former une armée, la tâche est encore beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je considère que, par rapport à ces problèmes, il serait difficile de penser qu'on peut régler le problème de l'air par la guerre, tout simplement. Il y aura des milliers de morts, du côté de part et d'autre, ce sont finalement les Congolais qui vont le perdre. Cette rébellion, elle n'est pas congolaise, pour demander au gouvernement congolais de se mettre d'accord avec FDLR.
Non, il y a quand même des Congolais qui disent qu'il y a, non, il y a la responsabilité
non.
Des gouvernements congolais.
Non.
Il y en a qui le disent.
Ça, oui, c'est là le langage. Moi, je considère qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point tel qu'il faudra que la communauté internationale, notamment les États-Unis, s'implique. Pour que réellement le gouvernement rwandais puisse prendre langue avec les Hutus qui partagent, qui veulent rentrer dans leur pays. Je crois que c'est l'unique façon de
mettre. Oui, selon vous.
Selon moi, et je crois qu'ils seront d'accord avec moi, parce que je dis que, et s'ils ont une expérience de ce genre de guerre, en Afghanistan et partout, finalement, ça se tourne autour d'une table. Alors aujourd'hui, on pourra faire la guerre. Vous connaissez la forêt des Chinois là-bas. Oui. Les gens peuvent entrer dans les forêts, dans les trous et tout. On va rester des années, oui. On ne trouvera jamais solution.
Voilà, on a compris, et il faut une implication des États-Unis.
Oui. Pour ramener le Rwanda à dialoguer avec le politicien FDLR pour mettre fin à la situation à l'Est.
Un mot, Clément Kankou, et puis Samuel Bourgeois. Je soutiens tout à fait, vous l'avez lu dans ma lettre ouverte, j'ai recommandé que les États-Unis d'Amérique
puisse peser de tout son poids pour que les Rwandais fassent comme les Congolais l'ont fait. Nous avons eu des guerres ici, mais nous avons
parlé de Sainte-Tite.
Voilà, nous sommes autour d'une table, c'était pas facile, et nous avons eu Sainte-Tite. Aujourd'hui, les choses se passent plus ou moins bien. Donc, demain, nous dire que nous allons régler la chose militairement, ça, c'est faux. Le RCD, le Rwanda, disons que le Rwanda a contrôlé cette partie du territoire pendant des années, ils l'ont pas fait. C'est pas aujourd'hui, c'est pas demain la veille qu'ils vont le faire, ce sont nos populations qui vont continuer à souffrir. Il est donc aujourd'hui recommandé que le Rwanda, l'Ouganda, organise des cadres de concertation, des négociations chez eux pour qu'ils partent, qu'ils fassent partir leur
d'envoyer. Vous pensez que ça peut accélérer
On a mis la pression sur le gouvernement congolais à l'époque, qui n'était pas obligé de le faire, ils l'ont fait. Le gouvernement l'a fait, nous nous sommes mis autour d'une table. S'il y a une réelle volonté de la part de la communauté internationale, ça se fera au Rwanda, ça se fera en Ouganda, LRA, FDLR, qui parfois nous ne connaissons pas très bien la position, et tout le reste, ils vont aller chez eux, ils vont s'entendre, et puis les populations congolaises vont vivre paisiblement.
Ouais, sans oublier qu'il y a aussi des Congolais qui sont cités d'être complices de ces FDLR. Hein.
Oui, ça me le pense. En fait, j'ai pas grand chose à dire, mais tout d'abord, je sais que M. Clément
Tankou
a parlé d'une lettre ouverte à notre secrétaire d'État, et je vous remercie de cette lettre. Je vous assure que cette lettre va suivre son cours, va arriver chez Mme Clinton. Mais pour tous qui veulent le faire aussi, maintenant, il y a des moyens électroniques plus modernes pour saisir le gouvernement américain. Je voudrais annoncer ce soir que nous avons ouvert un système de text messaging, SMS texte. Vous pouvez envoyer un message pour parler de la visite, vos propres impressions, vos commentaires, etc. sur la visite de Mme Clinton. Et je vais donner le numéro maintenant à vos auditeurs. Hein. C'est 081 950 59 44. Je vais répéter. 081 950 59 44. Et aussi, si vous préférez envoyer un email, un courriel, il y a aussi une adresse email. Je vais donner maintenant l'adresse email. Et c'est Kinshasa Town Hall, tout ensemble, Kinshasa Town Hall, c'est en anglais, évidemment, je vais écrire. Kinshasa, c'est pas nécessaire. Alors, tout de suite, Town Hall, TAWNHALL. State,
.gov.
Voilà, et après peut-être
on pourra y revenir, il n'y a pas de problème.
Voilà, tout à fait.
Ouais. Peut-être vous êtes satisfait de ce que Samuel Brock a dit ou sinon on passe à la deuxième partie de l'émission.
Mais je resterai sur ma soif parce que nous avons demandé la pression demande qui est une pression. Les États-Unis, je crois qu'on nous a dit que les États-Unis n'interviennent pas militairement. Mais nous savons que les grandes puissances peuvent mettre de la pression pour que les États se prennent en charge. Nous demandons au Rwanda et à l'Ouganda d'organiser des forums, des dialogues entre Rwandais, entre Ougandais pour régler le problème chez eux. Pour ça, ils nous débarrassent de leur force.
Je
suis rassuré parce qu'on m'a dit que la lettre ouverte va arriver et qu'elle sera traitée.
Et que cela figure d'ailleurs dans votre lettre.
Si vous me permettez, je peux répondre
brièvement. Allez-y, ça m'envoie.
Je peux vous savez certainement, mais nous avons institué il y a déjà 4 ans le processus tripartite plus, qui à l'époque a été fondé, c'est la première fois, et le seul forum pour des dirigeants des 4 pays, l'Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda et le Burundi, pour se réunir au niveau de ministre des Affaires étrangères et en même temps aussi au niveau de chef d'état-major, les 4 États. Ils se réunissent normalement 3 fois par an. Alors il y a eu déjà 2 réunions ici à Kinshasa, un à Lubumbashi et aussi dans les capitales des autres pays. Voilà, ça c'est une première, je pense, un premier effort, un très bon effort qui a donné des résultats. Et au long aussi de mes...
Allez-y, parce qu'on va passer à la deuxième page.
Pour répondre à votre question, je peux vous assurer que nous avons aussi fait de la diplomatie, je vais dire aussi exercer de la pression, mais nous avons fait de la diplomatie auprès des Ougandais, auprès des Rwandais,
Et, bon, je ne vais pas non plus réclamer la, comment dirais-je,
la paternité.
Ou la paternité, mais effectivement, maintenant, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda ont tous des relations diplomatiques normales. Les relations diplomatiques ont été rétablies grâce aux efforts des Américains et des autres aussi. Hein.
Voilà.
Donc, voilà.
Merci beaucoup. On va poursuivre notre émission. Je rappelle que nous parlons de la fin ce mardi, de la visite en RDC de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Quelles peuvent être les retombées de cette visite? Restez avec nous, nous en parlons tout de suite.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelles peuvent être les retombées de la visite de Hillary Clinton dans les relations entre la RDC et les États-Unis? Pour le professeur Philippe Bioya, la véritable retombée de la visite de Hillary Clinton dépendra d'abord du gouvernement congolais, qui doit savoir comment tirer profit de cette opportunité offerte par l'administration Obama. On écoute le professeur Philippe Bioya, il est docteur en relations internationales et directeur de l'Institut panafricain de relations internationales et stratégiques. Il s'explique au téléphone d'Alain Rong.
Les retombées, il ne faut pas les attendre en termes, par exemple, de l'argent qu'on va décider. Absolument pas, parce que si on a suivi Mme Hillary Clinton, elle a dit, elle a répété le mot du président Obama au Ghana. L'avenir, le développement, le bonheur des Africains, ça va être l'affaire des Africains. Et que tous les concours extérieurs, qu'il s'agisse du concours des institutions, du Bretton Woods ou des gouvernements, c'est en appui, en complémentarité, à l'effort que le gouvernement doit devoir faire. C'est pourquoi je dis, à présent, il nous incombe, à nous le devoir, de trouver ce qu'il convient de chercher auprès des Américains. Parce que par le biais, la coopération avec les grandes puissances, c'était pour obtenir le soutien en fait au régime plutôt que le soutien au développement. Je crois que nous devons modifier notre façon de coopérer, nous devons devenir plus responsables.
Voilà, nous devons devenir plus responsables, c'est le professeur Philippe Bioya qui le dit. Clément Cancou, vous êtes d'accord avec lui? Je rappelle d'abord que Clément Cancou, le député national de l'opposition, est président du parti politique Mouvement pour le Renouveau, président aussi, hein, vous êtes plusieurs fois président, du groupe parlementaire des chrétiens démocrates. Vous êtes d'accord avec le professeur Philippe Bioya?
Je crois que le professeur Bioya a dit des choses que nous connaissons tous. Que la secrétaire d'État américaine vienne nous rappeler la bonne gouvernance ou la lutte contre la corruption, je crois que c'est des choses que nous avons, nous, au niveau de l'opposition, dénoncées depuis longtemps. Fort heureusement, les chefs de l'État s'est engagé dans cette dynamique avec la tolérance zéro. Nous disons donc qu'à la limite, à ce niveau-là, nous espérons que cela ne va pas rester lettre morte. Le président Sarkozy l'a fait. Et c'est bien dommage qu'on vienne tout le temps nous rappeler qu'il faut respecter le droit de l'homme, qu'il faut...
Vous êtes député national, en plus, hein?
Mais je crois que nous sommes députés et les députés font leur travail. Nous avons un gouvernement qui est censé faire le sien aussi. À notre niveau, au niveau de l'Assemblée nationale, nous faisons ce qui nous est reconnu, c'est-à-dire nos prérogatives constitutionnelles qui sont légiférées et contrôlées. Au niveau de contrôle, nous n'allons pas peut-être aborder en profondeur. Vous l'avez vu, nous n'avons jamais lésiné sur le moyen pour aller jusqu'au bout de contrôle parlementaire, même si parfois nous avons l'impression à la fin que les résultats sont mitigés, parce que les recommandations ne sont pas suivies par le gouvernement, mais nous disons, si on a parlé de la bonne gouvernance, si c'est ça les retombées, je crois qu'on nous a déjà trouvé dans une dynamique de tolérance zéro que nous estimons ne pas être que du spectacle. Nous estimons que la tolérance zéro doit aller jusqu'au bout. Nous devons voir que demain, qu'on puisse arrêter des mandataires publics, qu'on puisse arrêter pourquoi pas des députés, qu'on puisse arrêter des ministres. C'est là que nous verrons qu'il y a eu vraiment des retombées positives. Mais si c'est juste pour rester sur des termes génériques, je crois que, comme les auditeurs, comme ceux qui ont posé des questions, on risque d'être encore déçus.
Voilà. Question quand même là par rapport à la responsabilité qui incombe au gouvernement, qu'on ne doit pas tout attendre de l'argent des États-Unis, mais il y a cette responsabilité du gouvernement congolais.
Bon, je crois qu'il ne faut pas être... Il ne faut pas être naïf. Quand les gens disent que la responsabilité est du gouvernement pour la gestion de ce qui se passe au pays, ils ont parfaitement raison. Ça, c'est tout le monde le sait de la palissade. Mais moi, je pars d'avoir un problème. Ce pays est en guerre. Donc, il faut vous dire un peu, lorsque un pays est en guerre, la gestion du pays est particulièrement différente que lorsque un pays est en paix.
Il faut mal le gérer quand même.
Non, attention. Non, je ne dis pas ça. Il faut mal le gérer. Je considère que il y a beaucoup de priorités à la fois. Autant nous savons qu'il faut gérer parcimonieusement le peu d'argent que nous avons, autant nous savons aussi que une grande partie de nos ressources part finalement dans la gestion de cette guerre inutile. C'est pour ça que je reviens à la case de départ, ce que lorsque nous parlons de la communauté internationale, ce n'est pas qu'il doit faire les choses à notre place. La communauté internationale a toujours exercé des pressions sur ce pays, depuis Mobutu. La presse, c'est toujours la communauté internationale du monde capitaliste qui a fait pression sur Mobutu pour soutenir Savimbi. C'est toujours la communauté internationale qui a fait la pression sur Mobutu pour accepter les intérêts à Moïse.
Non, mais c'est pas elle quand même qui a demandé à Mobutu aux gens de mal gérer le pays.
Non. Je dis que toujours par rapport à ça, aujourd'hui nous avons un problème très sérieux à l'Est. Le gouvernement, parce que les chefs de l'État et tout le monde, sont, surtout pour un président élu, il a besoin de présenter un bilan agréable là-bas en 2011. Vous comprenez très bien que lorsque, malgré sa volonté, il est obligé de faire autre chose que le développement de son pays. À ce moment-là, nous avons besoin de la communauté internationale. Parce que, bon, le reste, la gouvernance, c'est tout ça. Il n'y a pas que l'argent qu'on sort et tout. C'est la paix. Quand il n'y a pas de paix, vous avez.
Il n'y a pas de bonne gouvernance. C'est ce que vous voulez dire?
Non, je n'ai pas dit ça. Quand il n'y a pas de paix, il est difficile d'avoir le même comportement que celui d'un président de la République qui gère un pays où il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. De l'Est, qui perturbe pratiquement le fonctionnement général de l'État. Les investisseurs ne viennent pas. Parce que comment perdre de ça? Ce que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme recette aujourd'hui avec la crise économique que nous avons? On a très peu de recettes.
Encore, il faut qu'elles soient bien gérées.
Tu comprends? Tout l'Est du pays, il y a la fraude. Qui contrôle là-bas? Ce sont des rebelles. Tu comprends? Les rebelles congolais, les rebelles rwandais, tout. Ils contrôlent une bonne partie de l'Est du pays. Donc, le problème de fond aujourd'hui, c'est soutenir qu'il nous faut une implication réelle de la communauté internationale pour atteindre le Rwanda, l'Ouganda.
Ça, vous l'avez déjà dit.
Oui, c'est important.
Vous l'avez déjà dit.
Ça a des répercussions sur le reste. On ne peut pas écarter ça. Tout est lié, non, mon cher ami. Tant que nous avons ces problèmes-là, nous aurons toujours des problèmes de gestion dans notre pays.
Même ce qui nous incombe, nous Congolais.
Ce qui nous incombe, nous le gérons.
Voilà. Bon. On va donner la parole à Samuel Brock. Je voulais d'abord vous faire écouter Hillary Clinton, parce que nous lui avons posé une question en rapport, justement, c'est toujours en rapport avec les retombées, hein, par rapport notamment aux investissements chinois, qui, pour certains, sont plus concrets, plus visibles. La secrétaire d'État américaine dit ne pas s'opposer aux actions chinoises, mais pour elle, c'est aussi important que de se doter, entre autres, d'institutions démocratiques et qui protègent aussi les droits de l'homme et ceux des femmes. On écoute cet extrait de Mme Hillary Clinton. C'était hier à notre micro dans une interview co-réalisée avec Jean-Dip Katwala, notre confrère de l'information publique de la Monique.
Well, it's interesting because I'm aware of the commitment that China has made, and I think that building roads is a very important development goal for this country. But so is good governance, so is protecting and promoting human rights, so is building an independent judiciary, a free press, the institutions of democracy that will hold up over time. It's important to build a free market, to stand against corruption, to ask for more transparency, and the United States has been working to achieve those goals. It's not either or, and I'm aware that sometimes people can see the road more than they can see the protection for human rights, but you can have a country with roads that still deprives its people of human rights, that still has no economic development, so that there are no goods and services going down those roads that will actually help the people.
Voilà. Samuel Brock, évidemment, le débat ici, ce n'est pas de voir entre Chinois et Américains qui fait plus au niveau de la RDC, mais c'est par rapport à ce passage de Mme Hillary Clinton, finalement, en termes concrets, nous avons déjà suivi dans l'élément de notre confrère Gabriel Amenia, qu'est-ce qu'on peut retenir de concret après cette visite de Mme Hillary Clinton à la RDC?
Bon, il n'est pas secret qu'elle est venue avec un programme spécifique. Son programme, c'est très lié à sa personnalité, aussi à son parcours professionnel. Elle est championne des droits de l'homme et surtout, contre les violences sexuelles. Enfin, elle s'est distinguée dans le internationalement pour ces paroles contre ces abus, ces abus des droits de l'homme, etc. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'elle continue avec ce discours. Ça, c'est...
Elle a envie de l'entendre. Hein,
voilà, donc, et elle a dit. Et je pense aussi, c'est tout à fait vrai, nous parlons très souvent, si vous voulez, enfin, des choses très matérialistes, etc., très matérielles.
Concret,
voilà, c'est le mot en français, excusez-moi. Mmh. Mais en fait, si, comme elle a dit très bien, elle a dit parfaitement, on peut avoir tous les
super routes,
etc., mais sont des produits pour vendre, c'est-à-dire pour utiliser des camions chargés des produits agricoles, etc., pour aller au marché, de quoi, enfin, quoi sert ces autoroutes. Je pense qu'il y a un point très important.
Et ainsi, elle dit que les États-Unis, eux, vont plus axer sur, pour aider la RDC à se doter d'institutions démocratiques.
Exactement.
Qu'est-ce qui peut être fait, par exemple excusez-moi, il y a cette équipe d'experts américains qui doit venir, et c'est approuvé par le président de la République, experts en silence et en droit. Est-ce qu'on peut peut-être nous en dire encore?
Je n'ai pas encore beaucoup de détails.
Ouais.
Elle est venue de Washington, je sais que les derniers jours, elle a travaillé beaucoup avec des différents ministères aux États-Unis, etc., pour créer un programme spécifique. Alors, nous verrons nous-mêmes, à l'ambassade, de plus de détails sur ces programmes.
Mmh.
Mais effectivement, nous sommes prêts à fournir des experts comptables, des experts dans la bonne gouvernance. Une chose qu'il a aussi beaucoup souligné pendant sa visite, c'est la nécessité ici de lutter contre la corruption. Et je pense, vous avez parlé enfin, le pays n'agit pas comme un pays en paix ici, c'est un pays en guerre. Mais quand même, il y a des énormes régions de ce pays qui ne sont pas en guerre, et où il y a aussi des milliards de dollars qui sont perdus à cause de la corruption. C'est aussi une perte énorme pour le pays. Donc, elle a renforcé cette idée, elle a parlé de cette idée.
Alors, qu'est-ce que vous pensez, justement, Clément Cancou, de la lutte contre la corruption sur laquelle Mme Clinton a insisté?
Écoutez, moi, je crois que je vais peut-être revenir juste une petite seconde en disant que c'est vrai qu'il y a des responsabilités à deux niveaux. Il y a le niveau de la communauté internationale. Nous avons demandé qu'on puisse faire en sorte que la paix revienne au Congo à travers, nous avons demandé... Pour ce qui concerne la corruption, les antivaleurs, nous ne cesserons jamais de le dire. Nous l'avons toujours dénoncé, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale, que quand on en a l'occasion, la corruption est un fléau au Congo que nous devons arrêter. Mais nous disons encore qu'aujourd'hui, apparemment, on veut se lancer dans la tolérance zéro. Donc, voyons voir ce qui va se passer. Si ça ne marche pas, rassurez-vous, nous serons là toujours comme une lampe témoin au niveau de l'opposition pour dénoncer si nous voyons que la procédure qui est engagée est juste un folklore ou c'est une réalité. Et nous serons là, nous serons très regardants, mais nous estimons que les signaux qui sont donnés aujourd'hui par le pouvoir sont des signaux qui peuvent nous dire que, bon, aujourd'hui, nous allons nous lancer véritablement dans la lutte contre la corruption parce que les cas sont légion, nous l'avons dénoncé au niveau du gouvernement, au niveau des mandataires publics et à tous les niveaux de l'État.
Voilà, c'est John Foucault, en attendant, qui nous écrit de Bandounouville. Il salue la visite et le message apporté par Mme Clinton. Selon lui, nos dirigeants doivent profiter de la présence de la nouvelle administration américaine pour la relance de la politique étrangère du Congo. Nous remercions tous les autres. Malheureusement, nous n'avons pas tout le temps pour lire leurs réactions. Christian Kambinga, peut-être, on rappelle aussi que Hillary Clinton, par rapport à la bonne gouvernance devant les étudiants à Kinshasa, elle a cité l'exemple du Botswana. Qu'on peut limiter. Votre avis, en quelques secondes, parce qu'on est très loin.
La bonne gouvernance, c'est une préoccupation pour le gouvernement. C'est tout un processus. C'est un changement de mentalité qu'il faut combler.
Mmh.
Et ça passe par le fouet. Et on a commencé par sanctionner.
Mmh.
Je crois que ça doit aller plus loin. Et aujourd'hui, je l'ai dit d'ailleurs dans une émission, c'est que lorsque nous changeons, quand le président dit que les portes sont ouvertes, ce sont les magistrats qui doivent arrêter les gens.
Mmh.
Le magistrat, la Cour suprême, la liste des biens meubles et immeubles de tout le mandataire.
Ouais.
Alors, nous estimons que lorsque vous considérez que la personne qui est entrée au gouvernement n'avait qu'une fondation et que 3 mois après, il a toute une cité avec lui, vous devez l'arrêter et qu'il vous dise, vous levez l'argent.
Donc, vous dites un peu que les nouveaux magistrats ont du pain sur la
table. Voilà, donc ça, je l'ai dit dans une des émissions pour justifier la décision du chef de l'État. Je crois qu'il revient aux nouveaux magistrats de prendre les choses à bras le corps.
Ouais. Et donc, pour conclure, parce que nous sommes presque à la fin, on va conclure avec vous, Samuel Brock. Je rappelle que vous êtes chef de la mission de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis en RDC pour conclure finalement sur cette visite, le dernier mot que vous pouvez dire.
Bon, mais évidemment, merci beaucoup de m'avoir invité. Finalement,
vous en prie.
Je voudrais, enfin, pour moi, le fait que Mme Clinton fasse ce tour en Afrique si peu de temps après qu'elle est arrivée à au département d'État indique l'engagement, est symbolique de l'engagement de l'administration Clinton. L'administration, excusez-moi.
Obama.
Elle s'appelle Clinton.
Oui,
voilà, Obama.
Mais elle est dans le
envers l'Afrique. Voilà.
Ouais.
Et le président Clinton lui-même, président Obama, excusez-moi, encore.
C'est Madame Clinton, hein.
Voilà. Madame Clinton, le président Obama, ouais, est allé au Ghana.
Ouais.
Il a choisi le Ghana, qui est un pays exactement où il y a eu effectivement la lutte contre la corruption, il y a eu des succès, pardon.
Merci beaucoup.
Voilà.
Merci Samuel Brook. Oui. Avec vous, que nous mettons fin à cette émission. Merci à tous les autres invités, Christian Camilla et Clément Cancou. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà.